Alors la première étape, donc puissance de Dieu, de quelle puissance il s'agit? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de puissance? Dans toutes les traditions religieuses, dans toutes les religions, la puissance est un attribut essentiel de la divinité. Et nous-mêmes, dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Voilà. Alors, voilà, on dit ça régulièrement. Et en même temps, qu'est-ce qu'on veut dire exactement à travers cette toute-puissance? La toute-puissance qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de saisir s'agissant de Dieu, n'est sans doute pas à la manière humaine. Et il ne s'agit pas de voir une toute-puissance qui pourrait s'imposer simplement par la volonté ou par la force. La puissance de Dieu, elle est d'un autre ordre, elle se déploie et elle se fait connaître à travers une histoire qui est l'histoire même du salut, l'histoire sainte, si vous voulez. Toute l'histoire de la révélation, en fait, c'est une sorte de conversion progressive quand on lit la Bible, d'un Dieu qui est envisagé d'abord comme une puissance à la manière humaine, c'est-à-dire un Dieu qui va battre les ennemis, qui va chasser les adversaires, qui va imposer une force quasi militaire, un Dieu que l'on va adorer comme étant un Dieu d'amour. Et donc c'est bien avec cette perspective-là qu'il faudrait relire toute la Bible et étudier l'histoire des religions. C'est assez normal, si on y réfléchit un peu, que l'homme considère d'abord Dieu comme le Tout-Puissant. Si on se met à la place de nos ancêtres, voilà des hommes et des femmes qui se trouvent au milieu d'un monde qu'ils perçoivent d'abord comme étant dangereux. Ils ont conscience que leur existence est fragile, précaire, qu'ils sont soumis à toutes sortes de dangers liés à la nature, les tempêtes, les raz-de-marée, les épidémies, tremblements de terre, tout ce que vous voulez. Et donc, spontanément, l'homme va chercher une puissance qui le protège et qui le mette à l'abri. Et donc les païens, ils ont commencé par sacraliser tout ce qui pouvait donner une impression de puissance. La foudre, le soleil, les arbres, la lune, le soleil. Mais en même temps, cette idée de puissance, elle est toujours très ambiguë. Parce qu'il y a une puissance qui peut faire beaucoup de bien, mais aussi une puissance qui peut faire beaucoup de mal. Il y a des puissances qui écrasent, qui dominent, qui peuvent anéantir. Évidemment, on peut dire aussi qu'au moins pendant un temps, quelqu'un comme Hitler a été extrêmement puissant. Pareil si vous parlez de Staline. Bon. Et donc, on voit bien que la puissance que nous voulons évoquer, nous, quand on parle de Dieu Tout-Puissant, ça n'est pas cette puissance-là. Et les païens, devant l'ambiguïté que pouvait représenter la puissance, vont essayer de se la rendre favorable, de la concilier, d'offrir des sacrifices, des prières. Et donc tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, eh bien, c'est cette découverte progressive du vrai visage de Dieu qui va être en cause. Au cœur de cette évolution, les prophètes vont révéler que Dieu est la volonté de justice. Vous cherchez à vous concilier la toute-puissance, vous cherchez à vous la rendre favorable, et pour ça vous faites brûler de l'encens, vous offrez des taureaux, des boucs, vous multipliez les fêtes, les cérémonies, vous célébrez les nouvelles lunes. Eh bien, dites-vous que le vrai moyen de vous rendre la toute-puissance de Dieu favorable, c'est autre chose. C'est pratiquer la justice entre vous, car Dieu est volonté de justice. La puissance de Dieu dans la Bible, elle apparaît d'abord dans le Créateur. Si le Dieu d'Israël est tout-puissant au ciel et sur la terre, c'est que c'est lui qui les a faits. Rien ne lui est donc impossible, et il dispose à son gré de son œuvre. Cette œuvre qu'il a créée par sa parole et par son souffle, par son esprit. Il donne à l'univers sa stabilité et il domine les forces qui pourraient en troubler l'ordre, telle la mer en furie. Il peut changer le désert en source et mettre la mer à sec. Le regard de Dieu, ainsi, est plus fort que les forces de la nature. Cette puissance de Dieu, elle se manifeste par ses interventions ici-bas. Cette puissance, elle s'exerce parce que à Dieu, rien n'est impossible. Partout, il peut protéger ses élus et réaliser en leur faveur ce qu'il veut. Le Dieu Tout-Puissant, c'est aussi celui avec lequel l'homme va s'affronter. Vous connaissez le récit de la lutte de Jacob avec l'ange. Au terme de la lutte, Dieu le bénit et lui donne le nom d'Israël, ce nom que portera le peuple élu comme un souhait, que Dieu se montre fort. Et la force d'Israël, elle est en effet dans l'invocation et dans le secours de Dieu qu'il a choisi, le puissant de Jacob. Ce Dieu qui va libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, il libère son peuple et le conduit à travers le désert. Jésus, lui, alors je passe évidemment très vite parce qu'il faudrait, on pourrait passer une heure sur toute la description de cette puissance de Dieu à travers toute l'histoire de la Bible. C'est finalement Jésus qui va nous révéler en profondeur le vrai visage de Dieu, la puissance même de l'amour. Cette histoire d'une conversion progressive d'un Dieu qui est simplement la toute-puissance, la force, à un Dieu qui est amour, elle est aussi non seulement l'histoire du peuple juif, mais elle est aussi l'histoire de chacun d'entre nous. N'avons-nous pas sans cesse à nous convertir à ce Dieu qui n'est que amour. Jésus est celui en qui va se révéler cette puissance de l'amour qui se donne et qui se manifeste. Fils de l'homme, Jésus est le Messie, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. L'Esprit repose sur lui et lui est donné sans mesure. Il manifeste sa puissance par des signes, par des gestes, par des miracles qui vont attester de sa personne, de qui il est, et qui prouvent non seulement que Dieu est avec lui, et qu'il est l'envoyé du Père, mais encore qu'il est Dieu avec nous, l'Emmanuel. Or, loin d'exercer sa puissance pour sa propre gloire, selon les vues d'un, d'un messianisme temporel, et on voit bien que beaucoup voudraient qu'il soit d'abord l'artisan de la victoire sur l'envahisseur romain, sur le fait de rétablir le peuple d'Israël dans un pouvoir temporel. Et ce n'est pas cela que Jésus vient accomplir. Il ne cherche que la gloire de son Père et l'accomplissement de la volonté du Père. Cette humilité même est la source de tous ses pouvoirs. Alors oui, la création lui est soumise, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il remet les péchés, il chasse les démons, il affirme même son pouvoir de donner et de reprendre la vie. Et il se l'applique à lui-même. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est-à-dire qu'il est capable d'offrir librement sa vie sur la croix et d'accueillir la force de vie que son Père lui donnera dans la résurrection. Enfin, il annonce sa venue au dernier jour, à la fin des temps, pour exercer son pouvoir de juge. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. C'est dans saint Matthieu au chapitre 26. Voilà la puissance de Jésus qui, on le voit, n'est pas une puissance à la manière humaine. On voit bien ainsi la différence qu'il y a entre un tout-puissant qui aimerait les hommes et un amour qui est tout-puissant. Un amour qui est tout-puissant n'est pas capable de détruire qui que ce soit, mais il est capable d'aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au don de sa vie, jusqu'à la mort. Au moment de l'agonie au jardin des Oliviers, Jésus dit qu'il aurait pu faire appel à des légions d'anges pour l'arracher aux mains des soldats. Et il s'est bien gardé de le faire, parce qu'alors il nous aurait révélé un Dieu qui serait faux. Il nous aurait révélé un tout-puissant, au lieu de nous révéler celui qui va mourir pour ceux qu'il aime. Et finalement, c'est la mort même de Jésus sur la croix qui manifeste la toute-puissance de Dieu. Quand nous disons que Dieu est tout-puissant, eh bien, il l'est en donnant sa vie, en acceptant que Jésus meure sur la croix. Ce n'est pas une puissance d'écrasement, de domination, ce n'est pas une puissance arbitraire, il n'est qu'amour, mais cet amour-là, est tout-puissant. Enfin, l'esprit que Jésus a promis à ses disciples, il va leur être donné pour que manifester sa puissance. L'esprit qui remplit les apôtres au jour de la Pentecôte est un don que leur fait le Christ ressuscité qui manifeste sa puissance de sauveur. Alors les apôtres vont pouvoir exercer leur pouvoir de remettre les péchés, comme Jésus l'a annoncé, de donner l'Esprit. Et le développement de l'Église, dans les premiers temps, va confirmer cette promesse que Jésus avait faite à ses disciples, de faire des œuvres plus grandes que lui encore, d'obtenir du Père tout ce qu'il demande au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est la foi qui rend la prière toute puissance. Et Paul, un peu plus tard, va se faire aussi l'écho de cela, en enseignant que par la foi, l'homme s'ouvre à la puissance de salut qu'est l'Évangile, que représente la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. La foi donne de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. C'est dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 9. Jésus crucifié sauve ceux qui mettent leur foi en lui. Pour eux, il est puissance de Dieu, car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, et sa puissance se déploie dans la faiblesse de ses témoins. Vous trouverez ça dans les lettres aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25, et dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9. Voilà ce rapport entre la force et la faiblesse. La force de Dieu n'est pas une force à la manière humaine, elle passe aussi par l'accueil de la faiblesse. Deuxième étape de notre chemin, maintenant que peut-être nous voyons un peu plus clair sur ce que peut être cette puissance de Dieu, eh bien regardons ce qu'il en est du côté des médiations humaines, de la logique même de l'incarnation de Dieu fait homme. La réalité de l'Église, à la lumière de l'incarnation, on la retrouve dans la sollicitude pour les hommes, dans l'importance que les hommes ont pour tout croyant, pour tout chrétien. De même que l'incarnation du Verbe de Dieu introduit le Christ dans une relation de solidarité profonde avec tous les hommes, en toute chose sauf le péché, de même, l'Église ne peut jamais se désintéresser du sort des hommes. Tous les problèmes humains vont retentir pour ceux qui mettent leur confiance dans le Christ. Si par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine manière à tout homme, c'est le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes, au numéro 22, l'Église reconnaît comme son devoir fondamental, en agissant de telle sorte que cette union puisse continuellement s'actualiser et se renouveler. Et là, c'est Jean-Paul II qui parle dans la première encyclique qu'il avait écrite, « Le Rédempteur de l'homme », numéro 13. L'Église désire servir cet objectif unique, que tout homme, tout être humain, puisse retrouver le Christ, afin que le Christ puisse parcourir la route de l'existence en compagnie de chacun. Donc, la mission de l'Église, c'est de faire découvrir aussi aux hommes que le Christ marche avec eux, qu'il avance sur leur chemin. C'est pour cela, au nom même de l'incarnation du Christ, que l'Église ne peut demeurer insensible à tout ce qui sert le vrai bien de l'homme, à tout ce qui construit l'humanité, comme à tout ce qui peut la menacer. Tout ceci est finalisé dans la proposition faite à tous les hommes de percevoir, c'est encore dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au numéro 91, percevoir avec une plus grande clarté la plénitude de leur vocation, de rendre le monde plus conforme à l'éminente dignité de l'homme, à rechercher une fraternité universelle, appuyée sur les fondements plus profonds et sous l'impulsion de l'amour, à répondre généreusement et d'un commun effort aux appels les plus pressants de notre époque. Le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme, permet de donner une signification nouvelle, plus profonde, à ce que l'on peut comprendre à travers la dignité de l'homme. L'homme est porteur de cette dignité non seulement parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qu'on lit dans les récits de la création, mais par l'incarnation, par la venue dans la chair de la parole de Dieu, l'homme est en relation non pas de façon abstraite et générique, mais à travers un événement dans l'histoire qui se réalise dans l'histoire des hommes. La relation avec Dieu, elle passe par une médiation. Et donc la dignité inaliénable de tout homme est exprimée de façon renouvelée. Chaque homme, d'une manière ou d'une autre, est en lien avec cet événement particulier de l'histoire. Le Christ est en quelque sorte uni à tout homme, disait Gaudium et Spes. La dignité de la personne reçoit une nouvelle qualité. Chaque homme, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa situation, devient pour celui qui accueille l'incarnation du Christ un frère. Frère du Christ, appelé à vivre par vocation une filiation avec Dieu. Évidemment, il faut redire, et c'est heureux, que la dignité de la personne n'est pas le propre des chrétiens, et que beaucoup d'autres aussi peuvent souligner cette dignité de l'homme, incomparable. Mais la dignité de la personne, elle est fondée sur l'humanité, par le travail de la raison, de notre réflexion. Mais elle trouve à travers l'incarnation du Christ, à travers la foi en Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, une signification plus profonde encore pour le chrétien qui le relie au Christ. Elle reçoit une qualité supplémentaire du fait que le Christ s'est incarné. C'est aussi la compréhension de l'histoire des hommes qui reçoit une nouvelle qualité. L'histoire n'est pas seulement marquée par la succession des événements dans leur chronologie, heureuse ou dramatique, mais elle trouve un sens par rapport à la personne de Jésus. L'histoire ne vient pas de n'importe où et ne va pas n'importe où. Le Verbe, la parole de Dieu, préexiste depuis toujours, et le Fils est celui qui donne sens à l'histoire humaine. Et le mot sens, il veut dire deux choses, à la fois la direction, dans quel sens est-ce qu'on va, et en même temps la signification, qu'est-ce que ça veut dire, le poids des événements. Par la venue de Jésus, aucune situation historique n'est jamais totalement dépourvue de sens. L'incarnation donne à l'histoire un sens toujours plus profond. La création disait déjà quelque chose de l'égalité entre les hommes, puisqu'ils ont tous été créés par Dieu, voulus par Dieu. Une certaine fraternité. Eh bien, dans l'incarnation, il y a aussi une signification nouvelle. Cette égalité, elle est radicale. Elle touche à la racine de ce que nous sommes, puisque Dieu s'est fait l'un de nous et nous appelle à partager sa propre vie. Quand on réfléchit, quand on accueille ce mystère de l'incarnation dans sa vie, la personne même de Jésus nous rappelle qu'il a assumé sa vie sur terre à travers des liens humains limités. Jésus n'a pas connu tout le monde. Jésus n'a pas parlé à tout le monde dans sa vie terrestre. Mais ses disciples, son pays, les occupants romains, il a vécu dans un lieu, dans un temps, dans un certain type de relation. Dans aussi l'ambiguïté de l'histoire, et on voit bien que on essaye bien des fois dans l'évangile de le mettre en difficulté, de lui montrer des contradictions. Est-ce que tu prends parti pour les uns ou pour les autres? Et dans une situation historique bien donnée. Jésus, c'est l'illimité de l'amour, l'infini de Dieu qui se vit dans les limites de la condition humaine, avec ses grandeurs et aussi ses limites. Reconnaître le Verbe fait chair, la parole de Dieu, c'est accepter de vivre des relations qui soient aussi limitées. On ne peut pas tout. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. On ne peut pas être compris de tout le monde. Et on a forcément des objectifs qui sont limités. On ne vit pas en communion avec tout le monde. Ça serait de l'utopie. On voit des gens qui veulent faire beaucoup de choses très bonnes, mais qui souvent se perdent en route, parce que finalement on a du mal aussi à accepter que ce que l'on fait, eh bien c'est modeste. Et il faut accepter que ce soit modeste. L'incarnation nous montre aussi les limites de la présence humaine. L'incarnation nous rappelle aussi que Dieu ne monopolise pas l'amour de l'être humain. Dieu n'est pas jaloux des hommes. Tout subsiste dans le Christ, tout est rassemblé en lui. Les relations humaines, elles ne sont pas supprimées par notre foi chrétienne, mais elles sont assumées, elles sont purifiées par le Christ. On ne peut jamais s'enfermer, on le sait bien, dans le dilemme entre aimer Dieu et aimer son prochain. Il faut aimer l'homme pour lui-même en Dieu. C'est Saint Jean qui le dit dans la première lettre, chapitre 4, verset 20. « Celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, celui-là est un menteur. » Et donc la logique de l'information, elle nous fait refuser toute tentative de fuite du monde ou de construction d'une sorte de société à part, de contre-société, où les chrétiens auraient leurs propres règles indépendamment des autres. De refus de la culture, de l'environnement dans lequel nous sommes immergés. Tout cela n'est pas cohérent avec l'incarnation du Christ. Le monde, il a ses défauts, il a de gros défauts. Il est marqué par le péché des hommes. Mais en même temps, c'est le monde que Dieu aime. Et si nous ne vivons pas cela, alors nous ne sommes pas chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout bénir. Ça ne veut pas dire que rien n'a d'importance et qu'on n'a pas à dire ce que l'on pense. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un regard de bienveillance, d'empathie sur ce que les hommes peuvent vivre. Quand le discours est trop marqué par des condamnations, par la façon de pointer tout ce qui va mal... Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que beaucoup de choses ne vont pas bien. Bon, tout cela ne rend pas complètement fidèle à la logique même de l'incarnation. Oui, le monde et sa culture sont marqués par le péché, mais le monde est aussi le lieu où la puissance de Jésus ressuscité va se déployer. J'ai à aimer le monde dans lequel je suis, dans ma culture, tout ce qui va dans le sens de la réalisation de l'homme, même si cela ne vient pas forcément directement de la foi. Qu'est-ce qui fait grandir l'homme? Qu'est-ce qui est au service de l'homme? Qu'est-ce qui lui permet davantage d'être ce qu'il est? Et d'où l'importance, et vous en êtes aussi à la fois les témoins et les acteurs, d'être présent pour les chrétiens dans un certain nombre de domaines qui peuvent paraître dangereux vu de l'extérieur. Eh bien, le domaine de l'information, c'est le vôtre, hein, mais aussi le champ du politique, mais aussi le champ de l'économie, mais aussi, etc. Voilà. Tout ceci peut se décliner. Et j'aime bien la citation que faisait le père Xavier Thévenot, donc qui est un grand moraliste français qui est décédé il y a déjà quelques années, trop tôt. Il disait « Tout ce qui se commande au nom du Dieu de Jésus-Christ doit pouvoir se justifier au nom de la vérité de l'homme. Et tout ce qui se commande au nom de la vérité de l'homme doit pouvoir se justifier au nom de la vérité de la foi chrétienne. » Je crois qu'il y a là une conviction qui est très libérante et qui nous évite toute attitude un peu hautaine ou de repli. Hein, l'attitude hautaine ou de repli, c'est de dire, ben, le monde est mauvais, vivons nos valeurs autrement, ailleurs, formons, pas dire une secte, mais c'est un peu ça qui est derrière. On voit bien que c'est une tentation qui peut exister. Et il faut parfois rappeler ça à temps et à contre-temps. Peut-être aussi entendre un autre passage du Concile, dans Gaudium et Spes au numéro 33, paragraphe 2, qui montre aussi que cette interaction entre le message de l'Église et puis ce qui est porté par la culture du temps. Devant l'immense entreprise que représente la recherche, le progrès, qui gagne tout le genre humain, de nombreuses interrogations s'élèvent parmi les hommes. Quels sont le sens et la valeur de cette activité laborieuse? Quel usage faire des richesses créées? Quelle est la finalité de ces efforts individuels et collectifs? L'Église, dit le Concile, gardienne du dépôt de la parole de Dieu, où elle puise les principes de l'ordre religieux et moral, n'a pas toujours pour autant une réponse immédiate à chacune de ces questions. Je crois que ça aussi c'est important, on n'a pas réponse à tout. Il y a tant de choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre petit à petit. Elle désire toujours, toutefois, joindre la lumière de la révélation à l'expérience de tous pour éclairer le chemin où l'humanité s'engage. Voilà ce que l'on peut dire un peu sur cette de l'incarnation et les conséquences qu'elle peut avoir sur notre façon d'être dans la société et les missions qui sont les nôtres et qui sont les vôtres à travers les journaux et les éléments d'information que vous pouvez donner, transmettre. Dans quel état d'esprit est-ce que l'on peut vivre cela? Troisième étape, aller à la rencontre. Le choix d'une église en sortie qui prend le risque de la rencontre. Et là, je pense qu'il n'y a pas mieux pour développer cela que de suivre, j'allais dire presque pas à pas, ce que le pape François nous dit dans son exhortation, la joie de l'Évangile. On ne va pas tout lire, mais en particulier dans le chapitre 1, premier chapitre. Et je vais lire quand même un certain nombre de... commenter un certain nombre de passages. Le premier, c'est le numéro 24 de l'exhortation. Donc le chapitre 1, il s'appelle « La transformation missionnaire de l'Église ». Voilà, comment est-ce que l'Église va être une Église qui sort, qui va à la rencontre. Et donc c'est le cœur du sujet, puisque c'est intitulé « Qu'est-ce que c'est qu'une Église en sortie ? » Qu'est-ce qu'une Église en sortie ? L'Église en sortie, répond le pape François, c'est la communauté des disciples missionnaires. Alors, il y a cinq caractéristiques. Qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui font fructifier et qui fêtent, qui célèbrent. Alors, en premier, prendre l'initiative. Eh bien, la communauté évangélisatrice expérimente le fait que c'est d'abord le Seigneur Jésus qui a pris l'initiative. C'est lui qui précède dans l'amour, et en raison de cela, l'Église sait qu'elle sait aller de l'avant, ou en tout cas elle doit savoir aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin, arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Voilà. Ça, c'est la mission qui est confiée. Deuxième élément, en conséquence, l'Église sait s'impliquer. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. La communauté évangélisatrice, pour reprendre l'expression du pape François, eh bien, elle se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire. Elle assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Troisième élément, la communauté évangélisatrice, elle va accompagner. Elle accompagne l'humanité dans tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les attentes, la patience. L'évangélisation, le témoignage de la foi, nécessite beaucoup de patience et on doit éviter de ne pas tenir compte des limites. Tout ce que j'ai dit aussi sur l'incarnation qui manifeste les limites de l'action humaine. Fidèle au don du Seigneur, c'est la quatrième caractéristique. La communauté évangélisatrice, c'est aussi faire fructifier. Elle est attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, il reprend la parabole du bon grain et de l'ivraie, eh bien, il ne s'affole pas. Il ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Trop souvent, nous avons le désir de dire ce qui est bien et ce qui est mal, et donc de partager. Et au fond, ce que Jésus nous dit et ce que le pape François nous répète, c'est que il faut aussi accepter que les choses poussent et que c'est seulement au bout d'un certain temps qu'on voit le fruit et qu'on voit ce qui est la mauvaise herbe et ce qui est porte du fruit. Le semeur trouve le moyen pour que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceci soit imparfait et inachevé. N'attendons pas que ce que nous essayons de faire, nos projets, nos plans, nos manières de faire soient parfaits. Voilà. On n'est pas au but. Parce que sinon, on restera les bras croisés jusqu'au bout. On sait bien que ce qu'on fait, c'est pas parfait. Mais c'est aussi à travers ces moyens imparfaits que le royaume peut être annoncé et grandir. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyr comme témoignage de Jésus. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis. Quelquefois ça on sent aussi que aujourd'hui ou peut-être l'Église se sent ou se sait davantage critiquée et parfois combattue. Il y a un peu cette tentation en disant ben plus ça va mal, plus on est dans la vérité. Non, c'est pas comme ça. Nous ne courons pas devant. Voilà. Alors, sans parler du martyr, on n'est pas du tout dans la situation des chrétiens d'Orient ou d'autres régions en Afrique, etc. C'est pas parce qu'on n'est pas toujours bien compris ou bien reçu qu'on doit se croire persécuté. C'est deux choses différentes. Voilà. Le rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et qu'elle manifeste la puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, c'est la cinquième caractéristique, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours fêter. Alors ça, c'est aussi un accent qui, évidemment, pour un latino-américain, est quelque chose qui est fort, qui a une résonance particulière. Et peut-être que nous, on sait un peu moins faire ça. On a un peu plus de mal. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. Voilà. Donc la beauté, alors ça peut être la beauté dans la célébration, bien sûr, mais c'est aussi cette capacité qu'on peut avoir à se dire, ben, quand il y a quelque chose de bien, qui porte du fruit, qui réussit, on ne s'en attribue pas forcément la gloriole, mais on peut aussi s'en réjouir, et on peut être heureux de cela. Voilà. Donc n'ayons pas peur d'être heureux de ce qui réussit. Le pape nous dit ensuite que tout ceci nécessite une certaine conversion, ou une conversion certaine même. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses simplement comme elles sont. Donc, on n'est pas dans l'administration. Alors, bien sûr, il y a une part administrative dans toute chose, même dans un journal. Mais la finalité de ce qu'on essaie de faire, elle est au-delà. Et lui aussi, il cite le Concile Vatican II, qui présente la conversion ecclésiale comme l'ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité au Christ. Toute rénovation de l'Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation. L'Église, au cours de son pèlerinage sur la terre, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Voilà. Et donc, dans nos structures ecclésiales, dans nos manières d'être, dans nos organisations, eh bien, il y a ce qui va favoriser ce dynamisme évangélisateur. Il y a des bonnes structures qui sont utiles quand elles sont portées par la vie. Et que ça guide et ça soutient cet élan. Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans fidélité de l'Église à sa propre vocation, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps. Ça, c'est une chose aussi qui est pour nous très difficile, c'est qu'il nous faut aussi accepter qu'il y a des choses qui ont été utiles à un moment donné, qui ne le sont peut-être plus après. Donc il faut aussi accepter, ça c'est vraiment aussi profondément chrétien, c'est vivre la Pâque, la mort et la résurrection, que des choses meurent pour que d'autres vivent. Voilà. Mais c'est pas facile, parce qu'évidemment on est toujours attaché à ce qui est, à ce qu'on fait. J'ai eu l'occasion là, récemment plusieurs fois de rencontrer des communautés religieuses qui n'ont plus de vocation, hein, qui sont, j'allais dire, en fin de parcours de leur histoire humaine et spirituelle. Ben, ça demande un grand don de soi que de se dire que, ben oui, mais on rend grâce de ce qu'on a vécu, mais qu'ensuite ça passera autrement et que le Seigneur conduit son Église. Voilà. Je crois que c'est vrai pour beaucoup de nos œuvres humaines. Nous avons à vivre cela. Je passe, parce que le temps passe aussi, et puis le pape nous invite à toujours partir du cœur de l'Évangile. C'est au numéro 34, et qui vous concerne peut-être plus directement. Il dit: si nous entendons tout mettre en termes missionnaires, cela vaut aussi pour la façon de communiquer le message. Communiquer le message. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des communications, la sélection selon l'intérêt des contenus opérés par les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'apparaître mutilé, réduit à quelques aspects secondaires. Il en ressort que certaines questions qui font partie, par exemple, de l'enseignement moral de l'Église demeure en dehors du contexte qui leur donne sens. Voilà. Quand les gens vous disent, je sais pas quoi, l'Église se résume aux questions sur la contraception, l'avortement et quelques autres, ou le mariage homosexuel, bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dire là-dessus, mais ça veut dire aussi que ne mettons pas au cœur, au centre, ce qui ne se comprend que dans un contexte plus large, qui est d'abord un contexte de foi, hein, et un contexte d'accueil de la parole de Jésus et de sa présence. Le problème le plus grand se vérifie quand le message que nous annonçons semble identifié avec ses aspects secondaires, qui étant pourtant importants, ne manifestent pas en eux seuls le cœur du message du Christ. Il convient donc d'être réaliste et de ne pas donner pour acquis que nos interlocuteurs connaissent le fond complet de ce que nous disons, ou qu'ils peuvent relier notre discours au cœur de l'Évangile, qui lui confère sens, beauté et attrait. La pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister. Toutes les vérités procèdent de la même source divine et sont crues avec la même foi, mais certaines sont plus importantes pour exprimer directement le cœur de l'Évangile. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l'amour de Dieu manifesté en Jésus mort et ressuscité. D'où la citation qui est faite aussi sur la hiérarchie des vérités que le Concile Vatican II a rappelée. Enfin, le pape nous rappelle aussi que la mission des chrétiens s'incarne dans les limites humaines. À ceux qui rêvent d'une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance, il faut se dire que l'Église doit mieux aider à expliciter le riche trésor de sa parole. Cela peut sembler parfois une dispersion imparfaite, mais la réalité est que la variété des chemins, la variété des expressions, aide à manifester et à mieux développer les divers aspects de la richesse de l'Évangile. La vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté. Voilà ce que nous devons exprimer. Donc, avec l'intention de communiquer la vérité sur Dieu et sur l'être humain, en certaines occasions, nous leur donnons un faux Dieu ou un idéal humain qui n'est pas vraiment chrétien. De cette façon, nous sommes fidèles à une formulation, mais nous ne transmettons pas la substance. Voilà. Accepter de ne pas tout dire, de ne pas se perdre dans des détails qui sont secondaires. Je vous invite à continuer la lecture vous-même. Vous trouverez encore plein de richesses dans ce texte. Je ne vais pas le faire parce que voilà, je vois que l'heure tourne et puis que ça deviendrait fastidieux. Et je voudrais dire simplement pour terminer un peu mon propos, c'est la quatrième étape. Quelques champs d'application possibles pour les chrétiens aujourd'hui dans la société française. Je pense que nous avons à ne pas avoir peur sur la façon dont nous sommes présents dans la société. Nous voyons bien aujourd'hui, en particulier avec tout ce qui touche à la question de la laïcité, du dialogue interreligieux, de la place de l'islam dans notre pays, qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui discutées, conflictuelles. Je pense qu'il ne faut pas nous laisser enfermer là-dedans. Voilà. Notre laïcité française paraît souvent vue de l'étranger comme très particulière. En fait, je pense qu'elle l'est sans doute moins qu'on ne le dit. La loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, elle assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, mais elle ne signifie pas le refus ou l'ignorance des religions. Elle veut dire la non-inféodation de l'un vis-à-vis de l'autre, la distinction des domaines. Et je crois qu'il est bon que notre République laïque sache rappeler à bon escient la séparation de l'Église et de l'État, mais qu'elle sache aussi reconnaître, et c'est là où quelquefois nous avons aussi à dire ce que nous pensons, que cette séparation ne signifie pas l'absence de relation, l'ignorance réciproque, et que les croyances des citoyens, si elles doivent être respectées par un État neutre et indépendant, ne sont pas à renvoyer dans la seule sphère privée ou dans le secret des sacristies. La séparation n'interdit pas les relations, mais les instaure sur d'autres bases. S'il y a séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas dans les textes, et il ne doit pas y avoir, et c'est là aussi notre propre mission, de séparation de l'Église et de la société. Pas la même chose. Séparation de l'Église et de l'État, et pas séparation de l'Église et de la société. L'indépendance mutuelle de l'Église et du pouvoir politique n'implique pas l'ignorance ou l'hostilité, mais au contraire, la connaissance mutuelle et parfois la coopération sur certains points. Alors, je pourrais vous faire de longues citations pour expliciter ce propos, mais je dis là, il y a un champ qui me paraît très important aujourd'hui à investir, et dans lequel vous pouvez être aussi des vecteurs importants, parce que vous allez toucher des gens qui peuvent être à la périphérie de l'Église, un peu en marge, et qui vont pouvoir réfléchir aussi sur le fait que ce que les chrétiens, l'Église veut proposer, doit pouvoir être aussi exprimé de manière publique. Deuxième champ très important sur lequel la réflexion doit pouvoir être présente, c'est celui des questions éthiques. Alors on voit bien que c'est très difficile. Regardez en ce moment là ce qui se passe avec le débat sur la fin de vie ces jours-ci. Si on regarde un petit peu en arrière, il faudrait faire une analyse beaucoup plus longue et beaucoup plus fouillée sur ce qui s'est passé au moment du débat sur le mariage pour tous. On voit bien que à quel point cette question a interrogé, bouleversé la société française et l'Église, avec des positions qui étaient parfois très divergentes des uns et des autres. Voilà. Mais je pense que ça veut dire aussi que nous avons tout un travail de formation, de sensibilisation à faire, en particulier auprès des générations les plus jeunes. On a vu que dans ceux qui se sont mobilisés contre le projet de loi à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes finalement, beaucoup plus que dans nos églises ou que dans nos... Bon, encore une fois, je ne cherche pas à parler du fond, à dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais simplement de se dire, il y a là un appel pour nous, à essayer de se dire, voilà, nous sommes devant des générations, une génération en tout cas, qui se sent concernée par la famille et ses difficultés, une génération qui a voulu aussi s'engager, prendre des responsabilités, qui peut-être demain se retrouvera ou en politique ou dans des mouvements d'église. Et donc il y a la nécessité aussi de la former, cette nouvelle génération, en particulier pour les chrétiens, sur l'enseignement social de l'Église. En ne se cantonnant pas aux questions qui touchent à la famille et au mariage, mais aussi à d'autres questions éthiques, mais aussi sur les questions économiques et sociales. L'argent roi, la financiarisation de l'économie, les questions européennes, la mondialisation, etc. Et finalement, comment est-ce que nous sommes vecteurs pour aider à ce qu'il y a derrière tout cela, c'est-à-dire la question du sens? Quelle société voulons-nous et pourquoi? Alors on peut se la poser pour nous, mais on doit aussi aider les gens à y réfléchir. Alors c'est à la fois très encourageant, très fragile, mais ça reste complètement à construire. Voilà. Donc tout ce champ éthique, c'est aussi un champ sur lequel vous pouvez avoir une responsabilité très spécifique. Et le troisième et dernier champ que je voudrais évoquer, on pourrait en évoquer d'autres, il y a bien d'autres, c'est tout le domaine de la solidarité. Tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, non seulement pour les plus pauvres, mais avec les plus pauvres, et tout ce qui cherche à leur permettre d'avoir une vraie place dans la société. Je relis une phrase qui est de celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger. C'était dans un texte à propos de la théologie de la libération, 1986. Il disait ceci, c'est très fort: en vertu du principe de solidarité, l'homme doit contribuer avec ses semblables au bien commun de la société à tous les niveaux. Par là, la doctrine de l'Église est opposée à toutes les formes de l'individualisme, social ou politique. Voilà. c'est un devoir moral. Et donc, comment est-ce que, aussi, nous nous engageons et nous aidons ceux qui s'engagent sur ces questions de solidarité. Et là encore, je pense que vous, comme élément de dialogue et de frontière avec aussi d'autres qui ne sont pas au cœur de la vie ecclésiale, eh bien vous pouvez sensibiliser, pointer du doigt l'importance et l'urgence des engagements à tenir dans ce domaine-là. Je m'arrête en concluant. Je vais vous citer deux courts passages encore du pape François au numéro 10 de l'exhortation. Où il dit ceci: « La vie augmente quand elle est donnée et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. » Communiquer la vie aux autres. Et un peu plus loin, « Nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité, que la vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. » Donner la vie aux autres, c'est cela finalement la mission. Je crois que derrière tout ce qu'on peut dire, tous les sujets qu'on peut aborder, toutes les questions qui sont les nôtres, c'est ça qu'on doit pouvoir avoir en tête. Et puis, rappelons-nous, comme saint Paul le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, que ce trésor de l'Évangile, eh bien, nous, les apôtres, dit-il, nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. Voilà. Donc la puissance de Dieu, eh bien, elle passe par nos pauvres moyens humains. Merci beaucoup.